Bonjour à tous. Aujourd'hui, enquête sur la disparition du président chinois d'Interpol. Meng Hongwei a été emprisonné fin septembre et depuis, son épouse à Lyon se dit en danger. On va voir ça avec vous, Philippe Reltien. Bonjour.
Bonjour.
Et puis, nous recevrons Olivier Tesquet, spécialiste des questions numériques à Télérama. Bonjour également.
Bonjour.
Alors, vous nous expliquerez pourquoi, lorsque nous utilisons certaines applications sur nos smartphones, elles nous trahissent en envoyant nos données à Facebook, même si nous n'avons pas de compte sur le réseau social.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Le 25 septembre, Meng Hongwei rejoint la Chine. Le président d'Interpol envoie alors deux messages mystérieux à sa femme. Au bout de quelques jours, jeudi dernier, elle signale sa disparition inquiétante. Elle reçoit elle-même des menaces depuis plusieurs jours. La police l'a placée sous protection.
Voilà, ça c'est un extrait d'un reportage de BFM TV diffusé en octobre dernier. L'épouse du président d'Interpol, Meng Hongwei, s'inquiète de la disparition de son mari qui a été arrêté et emprisonné en Chine, officiellement pour corruption. Alors depuis, il a été remplacé, mais qu'un président d'Interpol disparaisse ainsi nous a semblé suffisamment grave pour que nous, à la cellule investigation de Radio France, nous tentions de comprendre plus en détail ce qui s'est passé. Alors vous allez nous dire ce que vous avez découvert, Philippe Reltien, mais pour commencer, dites-nous en deux mots, Interpol c'est quoi ?
Eh bien Interpol c'est un organe de coopération policière qui compte plus d'un millier de fonctionnaires et qui est en relation avec les polices de 194 pays. Et une de ses particularités, c'est que son siège n'est pas dans une capitale, mais il est situé à Lyon. Lyon qui est en lien avec 7 bureaux délocalisés dans le monde.
Et ça fonctionne comment, Interpol ?
Alors Interpol ne peut pas déclencher ni enquête ni poursuite, mais en revanche, elle permet de signaler à l'aide de notices rouges les personnes qui font l'objet d'un mandat d'arrêt. Interpol a aussi un fichier spécial pour les groupes radicaux comme Daesh et plusieurs bases de données, de photos et d'empreintes digitales.
Et donc Interpol était présidé jusqu'en septembre dernier par un ressortissant chinois.
Oui, qui s'appelle Meng Hongwei, 64 ans, un vice-ministre de la police, mais aussi un vieux briscard de la politique en Chine. Et pour Rémi Coffer, observateur des grandes polices du monde, ce n'est que le début de sa carrière.
C'est un fonctionnaire de police qui va avoir une ascension, peut-être pas météorique, mais assez rapide, puisqu'il va devenir le président de la section chinoise d'Interpol. En même temps, d'ailleurs, qu'il est vice-ministre de la sécurité publique, il est aussi responsable de la lutte antiterroriste.
Ah oui, donc il s'occupe d'identifier les dissidents, mais aussi les terroristes.
Oui, et quand on parle de terrorisme en Chine, on pense Tibet ou Xinjiang avec sa minorité musulmane ouïghour dans l'Ouest. Il se trouve que c'est lui, Meng Hongwei, qui a dirigé la police armée du peuple envoyée dans des zones comme le Tibet ou le Xinjiang.
Ouais, mais quand on vous écoute, Philippe, on se dit donc qu'il était avant tout un instrument du pouvoir. Alors comment il a pu ainsi atterrir à la tête d'un organisme comme Interpol ?
Eh bien, en s'appuyant justement sur la question du terrorisme. Il faut se replacer dans le contexte. En 2016, la Chine aussi a ses djihadistes qui rentrent de Syrie. Elle a besoin d'Interpol. Pékin fait donc passer le message qu'un policier chinois peut être utile à l'Occident sur ce terrain-là. C'est ce que nous explique Jean-Philippe Béja, qui est chercheur au CNRS.
À chaque fois qu'il y a des attentats islamistes, des Chinois disent « Mais vous voyez, nous aussi, nous sommes confrontés à ce terrorisme islamiste. Regardez ce qui s'est passé à Urumqi en 2009 avec les émeutes qui ont fait 200 morts. Regardez ce qui s'est passé à Kunming avec l'attentat à Tiananmen. Nous sommes nous-mêmes confrontés et nous devons collaborer au niveau international contre ce terrorisme qui est une menace grave contre l'ensemble des pays civilisés de la planète. »
Et donc ce message a été reçu à Interpol. Alors maintenant, une fois élu, Philippe, qu'est-ce qu'il fait ? Et c'est quoi d'abord le rôle du président ?
Eh bien, il est à la tête d'un comité international composé de 13 membres, mais un comité qui n'a pas vraiment de pouvoir. Le vrai patron d'Interpol, c'est son secrétaire général. Mais être président n'est pas anecdotique non plus, explique Mathieu Martinière, journaliste et co-auteur d'un documentaire sur Interpol.
Le président d'Interpol, il a quand même un pouvoir exécutif au sein de l'institution qui n'est pas négligeable. Et surtout, il a une influence. C'est-à-dire que dans les différentes assemblées dans le monde dans lesquelles il peut se tenir, il peut avoir son mot à dire, il peut s'entretenir avec différents chefs d'État. Et c'est surtout ça dont redoutent les ONG. C'est l'influence que peut avoir le président d'une telle organisation internationale.
Ouais, donc le président n'a pas un rôle neutre non plus. Maintenant, voyons comment il va l'exercer, cette présidence, Philippe. Dès son élection, Meng Hongwei prend une décision qui peut paraître anecdotique, mais qui est en fait assez surprenante.
Effectivement, il va décider de s'installer à Lyon, ce qu'aucun président d'Interpol avant lui n'avait fait. Et dans la foulée, il demande à la France d'autoriser sa femme et ses enfants à séjourner avec lui. Et ça, c'est assez inhabituel, remarque Rémi Coffer.
On se serait plutôt attendu que de Chine, il fasse des allers-retours en Europe, en France, et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il est de temps en temps, il est un peu en Chine, et principalement à Lyon. D'habitude, ça aurait été l'inverse, c'est-à-dire beaucoup en Chine et un petit peu à Lyon.
Bon, et qu'est-ce qu'on peut en déduire, Philippe ? Qu'il est en train de mettre des distances avec Pékin ?
Eh bien, c'est difficile de le savoir. Mais écoutez ce qu'en pense Raphaël Ruffier, qui est journaliste à Lyon Capitale et qui suit ce dossier.
Est-ce que il se savait déjà menacé ? Il a essayé de se mettre déjà un peu à l'abri ? Est-ce que c'est un peu une prise de distance et qui lui a valu cette arrestation au final ? C'est une hypothèse sérieuse.
Oui, une hypothèse d'autant plus sérieuse que pendant qu'il officie à Lyon, en Chine, des nuages commencent à s'accumuler sur sa tête.
Oui, le haut fonctionnaire zélé qui était en cours auprès de Xi Jinping semble l'être de moins en moins. Pendant qu'il est à Lyon, on lui retire deux responsabilités qu'il avait au sein du Parti communiste chinois.
Et l'étape suivante, Philippe, c'est que le 20 septembre, il répond à une convocation de Pékin. Et on ne le reverra jamais.
C'est ça. Et dans un premier temps, les autorités françaises n'auront aucune information sur ce qui lui est arrivé. À ce moment-là, la seule chose qu'on sait, nous dit Alain Juillet, l'ex-chef du renseignement de la DGSE, c'est qu'il a bien été arrêté.
Un jour, il a été convoqué, mais science tenante. Je pense qu'il ne pensait pas à l'époque ce qui allait se passer. Il s'est dit, bon, je suis convoqué, ils veulent me voir tout de suite, mais on n'a pas dû lui dire pour vous mettre en prison dans la foulée. Hein. Bon, il est parti et il a disparu.
Ouais, il a disparu, mais il envoie quand même un message à sa femme.
Hein. Oui, à sa femme qui est restée à Lyon. Le premier message est un SMS envoyé sur WhatsApp qui lui dit « Attends mon appel ». Et peu après, elle reçoit une émoticône, une image de couteau de cuisine, dont certains croient se souvenir qu'il a été l'emblème de la police secrète de Mao. Écoutez ce qu'elle a alors ressenti.
La femme, l'épouse que je suis, s'est dit « Ce couteau envoyé par mon mari, c'est le signe d'un danger. C'est pas bon, parce qu'on ne s'est jamais envoyé ce genre d'image avant. C'était la première fois. Après, j'ai tenté de l'appeler, mais personne n'a répondu. »
Vous étiez paniqué ?
Oui, oui, effrayé.
C'était sur WhatsApp ?
Oui, ça venait de son téléphone d'Interpol. Je ne sais même pas s'il est encore en vie. Ça me fait vraiment mal au cœur parce que je voudrais connaître la réelle situation de mon mari.
Ouais, donc son épouse s'inquiète, on l'entend. Et dans le même temps, Philippe, comment est-ce qu'on réagit à Interpol ?
Eh bien, on accuse le coup, on ne dit rien. Et il faudra attendre 2 semaines pour qu'Interpol soit finalement averti de la démission de Meng Hongwei. L'organisation reçoit une lettre de 2 lignes seulement, traduite en anglais, même pas signée. Et le lendemain, elle publie un communiqué dans lequel elle prend acte de cette démission, sans autre commentaire. C'est ce que raconte la journaliste de Libération, Laurence Defranoux.
Très rapidement, Interpol s'en est lavé les mains, on peut dire, par un communiqué très court, a dit quelques jours après avoir reçu une lettre de démission de la part de son ancien président et de l'avoir acceptée sur le champ, alors que rien ne permettait de dire que M. Meng avait écrit lui-même cette lettre de démission, qu'elle n'avait pas été écrite sous la torture ou sous au moins des pressions.
Non signée de la main.
Non signée de sa main, sans aucune preuve de vie, était pour le moins très étonnant.
Ouais, très étonnant. Et en attendant la suite, Philippe, c'est qu'on va remplacer Meng Hongwei à la tête d'Interpol.
Et immédiatement, son successeur est un Sud-Coréen. Il s'appelle Kim Jong-yang. Il a récemment été élu devant le candidat qui était défendu par Moscou. Et du coup, la vie reprend à Interpol comme si de rien n'était. On a tourné la page avec une rapidité qui déconcerte le spécialiste de la police, Rémi Coffer.
Ce qui me choque, c'est que Interpol ait accepté une démission de loin et n'ait pas demandé à son président de venir officiellement au siège de l'organisation internationale, c'est-à-dire à Lyon, dire qu'il donnait sa démission. Là, c'est un peu bizarre. On est un peu, semble-t-il, rentré dans la logique. Ils l'ont disgracié. Bon, on ne demande pas d'explication. C'est un petit peu bizarre.
Oui, c'est un petit peu bizarre, nous dit Rémi Coffer. Alors justement, Philippe, expliquez-nous comment est-ce qu'on justifie une telle précipitation à Interpol ?
Eh bien, j'ai posé la question à l'actuel secrétaire général d'Interpol, Jürgen Stock. Lui explique que le règlement de l'institution a été appliqué à la lettre et il affirme avoir eu toutes les assurances que Meng Hongwei avait bien démissionné.
On a eu des contacts avec les officiels chinois et avec des représentants du ministre de l'Intérieur chinois. Ils sont venus à Lyon, on a eu des discussions pendant le week-end, car à vrai dire, tout s'est passé en quelques heures. Ils sont venus, ils nous ont expliqué la situation, ils nous ont présenté tous les documents. Les documents dont j'avais besoin pour prendre les mesures adéquates. Il était clair que notre ancien président n'était plus membre de notre comité exécutif et que le doyen des vice-présidents devait donc le remplacer.
Et c'est donc ce qui s'est passé.
Ouais, sauf que cet épisode a quand même entaché la crédibilité de l'institution.
Eh bien oui, pour Raphaël Ruffier de Lyon Capital, que l'institution la mieux renseignée du monde n'ait pas su où était passé son président pendant 15 jours, c'est quand même un problème.
Ça montre quand même sa faiblesse, qu'elle soit pas capable de se mobiliser pour son président, savoir où il est. C'est son crédit qui est évidemment entamé. C'était pas un fonctionnaire chinois, c'était le président d'un organisme international. Et c'est quand même effarant que cet organisme ne soit pas en mesure de demander des comptes sur la disparition de son propre président. Parce que c'est ça que ça veut dire. Leur président disparaît, ils ne font pas de commentaires, ils enregistrent sa disparition et ils le remplacent.
Ouais, comme si de rien n'était. Bon, cela dit, Philippe, ça paraît étonnant. Et en même temps, c'est pas la première fois que ça arrive.
Effectivement, il y a eu un précédent, 2008. L'ancien commissaire national de la police sud-africaine, Jackie Celebi, a été suspendu de ses fonctions et contraint de remettre sa lettre de démission. Celebi touchait des pots de vin pour acheter des cadeaux à sa femme. Et il avait fait scandale en prônant la légalisation de la prostitution pendant la Coupe du Monde de football en 2010. Et lui aussi a ensuite fait de la prison.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Bien, alors maintenant qu'on a vu dans quelles circonstances l'ancien président d'Interpol a été convoqué en Chine et puis emprisonné, expliquez-nous maintenant, Philippe Reltien, pourquoi il est tombé ainsi en disgrâce.
Eh bien, officiellement, pour des faits de corruption. Maintenant, lesquels, précisément, on n'en sait rien.
Et c'est crédible, ça ?
Eh bien, l'hypothèse la plus probable, c'est que derrière la corruption se cache une purge politique. Parce que Meng Hongwei a certes travaillé pour le pouvoir, mais il a aussi été proche de l'ancien ministre de l'Intérieur, Zhou Yongkang, un rival de l'actuel président chinois, qu'il a d'ailleurs fait emprisonner à vie pour corruption. Or, en Chine, vos relations rejaillissent forcément sur votre carrière, souligne l'expert Rémi Coffer.
Du point de vue de Pékin et des dirigeants chinois, et en l'occurrence du dirigeant chinois, maintenant qui est le nouvel empereur de Chine, si je puis dire, Xi Jinping, il faut une fidélité totale. Et il était quand même marqué par le fait qu'il a appartenu à la clientèle de Zhao Yongkang, qui donc est maintenant en prison et qui a été écarté par Xi Jinping. Peut-être qu'on lui a fait comprendre que, en devenant président d'Interpol, il devait rapporter quelque chose de suffisant pour qu'on passe l'éponge sur son appartenance à un clan maintenant honni et tombé en disgrâce et même en prison, et peut-être sur d'éventuelles malversations financières.
Ah oui, donc Meng Hongwei n'aurait pas donné satisfaction à Pékin en étant à la tête d'Interpol.
On peut retenir cette hypothèse, mais il faut aussi savoir qu'en Chine, quand vous faites partie d'un clan, si vous êtes du bon côté, tout va bien, mais si vous êtes dans l'autre, votre carrière s'arrêtera. Et c'est ce que relève pour sa part le sinologue et romancier Stéphane Fier.
Le jour où le chef de la faction tombe, tous ceux qui ont fait partie de cette faction, à un degré divers ou avec des délais plus ou moins longs, tombent aussi. C'est un bon moyen d'éliminer des ennemis politiques sous couvert de lutte contre la corruption, tout en sachant que la corruption, de toute façon, là-bas, est institutionnalisée et que si vous êtes haut fonctionnaire ou petit fonctionnaire, vous êtes de toute façon corrompu.
Mais c'est grave ce qu'on entend là, Philippe. Ça voudrait dire qu'on aurait potentiellement mis en place à la tête d'Interpol, à Lyon, un fonctionnaire corrompu ?
Effectivement, la question méritait qu'on la pose au secrétaire général d'Interpol, l'allemand Jürgen Stock. Je lui ai demandé s'il avait enquêté pour vérifier qu'aucun fait de corruption n'aurait pu avoir lieu pendant que Meng Hongwei était président d'Interpol. Et lui estime que ce n'était pas nécessaire.
Tant que nous n'aurons pas reçu d'informations indiquant que l'enquête établirait un lien avec sa fonction de président, il n'y a aucune raison pour moi de lancer quoi que ce soit en interne. Nous n'avons aucune raison de chercher des suspects parce que les informations que nous avons reçues sont claires. Les investigations en cours ne sont pas liées à ses activités en tant que président. Dans ces conditions, je n'ai pas de raison d'ouvrir une enquête si je n'ai aucun indice, aucune preuve que ses activités, possiblement criminelles, soient liées à son rôle en tant que président.
Voilà, rien à signaler, nous dit l'actuel secrétaire général. Maintenant, Interpol, c'est quand même une organisation sensible qui détient des informations secrètes. Écoutez donc la suite de notre conversation.
Y a-t-il eu une faille de sécurité ?
Non, le président et les membres du conseil exécutif ne sont pas impliqués dans les opérations quotidiennes.
Donc, ils n'ont pas accès à des informations confidentielles.
Non, ils n'ont aucun pouvoir de décision. Par exemple, quand Interpol décide de publier une notice rouge de recherche ou de prendre la moindre décision opérationnelle.
No USB keys. Donc, aucune clé USB n'a été emportée en Chine.
Non, ils ne sont pas impliqués dans les affaires au quotidien. En rien. Et d'ailleurs, c'est un collectif qui décide. Le comité exécutif et pas le président d'Interpol. Lui-même ne prend pas de décision. Il se contente de présider le comité 3 fois par an pour vérifier que j'applique bien les décisions de notre instance de décision, l'Assemblée Générale.
Ouais, Jürgen Stock relativise. Maintenant, autre question, Philippe. Que va devenir son épouse ?
Eh bien, elle vit toujours à Lyon, avec ses enfants, et elle a demandé l'asile à la France parce qu'elle a peur d'être poursuivie si elle rentrait dans son pays. Elle avait rendez-vous hier dans les locaux de l'OFPRA, l'Office pour les réfugiés et apatrides, pour demander le statut de réfugiée, comme elle me l'a encore confié.
J'ai besoin que le gouvernement français me protège, m'assiste, m'aide, moi et les enfants. Je veux être assistée et aidée parce que j'ai peur d'être kidnappée.
Vous pensez que vous risquez d'être kidnappée ?
Peut-être. J'en suis pas sûre, mais quelque chose s'est produit. J'ai reçu des coups de fil bizarres. Et même ma voiture a été endommagée. Des Chinois, un homme et une femme, m'ont suivi à l'hôtel et on les a filmés à l'hôtel.
Vous voulez dire que les caméras de surveillance les ont enregistrés ?
Oui.
Ouais, les caméras de surveillance de l'hôtel et apparemment effectivement une de ces personnes demandait la chambre, le numéro de chambre de Madame Hongwei, hein, et s'est même précipitée dehors pour photographier sa plaque d'immatriculation. Alors tout ça fait qu'elle s'inquiète d'autant plus, Philippe, qu'un proche lui aurait aussi récemment proposé de l'emmener en avion hors de France.
Oui, à Prague, en voyage d'affaires et avec une insistance telle que cela paraissait suspect. Elle a eu le sentiment qu'on cherchait à tout prix à lui faire quitter la France. Et ça l'inquiète d'autant plus qu'un autre épisode lui a semblé étrange. Un épisode que nous raconte la journaliste Laurence Defrano.
Quelques jours après la fameuse démission de M. Meng, elle a reçu une proposition des autorités chinoises disant qu'ils voulaient lui transmettre une lettre de son mari, mais qu'elle devait lui être transmise en main propre par des intermédiaires qui viendraient de Chine. Donc Mme Meng s'est méfiée, a dit d'accord, à condition que des journalistes et des avocats, et je crois des policiers, assistent à la rencontre. La rencontre n'a jamais eu lieu. Peut-être que c'était un piège pour la faire rentrer en Chine.
Un piège ? Mais la justice n'a pas enquêté là-dessus ?
Et si, justement, mais l'enquête n'a rien donné. Le dossier a été classé par la justice.
Ah ouais, donc on n'en saura pas plus. Maintenant, au-delà du cas de l'épouse de Meng Hongwei, est-ce que cette affaire, Philippe, va laisser des traces ?
Eh bien, a priori non, dans la mesure où la Chine pèse si lourd au plan diplomatique que personne ne lui reprochera ce qui s'est passé. On ne veut pas la contrarier. Mais pour le sinologue Jean-Philippe Béja, cet incident aura quand même contribué à ternir son image.
La Chine, elle avait, avec Meng Hongwei, la présidence d'une importante organisation internationale. Faire passer les questions intérieures avant la position internationale est quelque chose de très inquiétant pour l'ensemble de ses partenaires. Il y a eu une déclaration de Xi Jinping récemment qui disait que la sécurité publique doit être absolument au service du parti. On y réfléchira à deux fois avant d'élire un nouveau responsable d'une organisation internationale chinoise, parce que il apparaît toujours beaucoup plus comme un fonctionnaire du Parti communiste chinois plutôt qu'un fonctionnaire international.
Secret d'info sur France Inter.
Alors maintenant qu'on a vu comment Interpol a été secoué par l'affaire Meng Hongwei, on va s'arrêter un moment sur un aspect méconnu de cette organisation internationale, c'est son financement. Parce qu'en enquêtant, Philippe Reltien, vous vous êtes aussi rendu compte qu'Interpol n'est pas à l'abri des influences extérieures.
En effet, on pourrait croire qu'Interpol, en tant qu'outil de police, est neutre et se tient à distance des intérêts privés ou des industriels influents. Or, il faut savoir qu'il existe à Genève une fondation qui permet à des partenaires privés de financer Interpol. Et parmi ces partenaires, jusqu'à il y a peu, on trouvait notamment le cigarettier Philip Morris ou encore de grandes firmes pharmaceutiques.
Ouais, donc des privés, mais il n'y a pas que des privés, il y a aussi des États.
Et en particulier les Émirats Arabes Unis, qui ont versé 50 millions d'euros à eux seuls à la fondation. Un don qui n'est pas neutre pour le journaliste et spécialiste d'Interpol, Mathieu Martinière.
Cette somme de 50 millions d'euros sur 5 ans, donc qui correspond à 10 millions par an, quand les Émirats Arabes Unis ont donné cette somme en 2016, ils étaient devenus le premier État, stricto sensu, donc je parle hors apport d'agences gouvernementales, à financer Interpol. En 2017, ils sont seconds derrière les États-Unis. Donc ça provoque une influence d'un tout petit État sur la scène géopolitique. Et il faut aussi savoir qu'il y a plusieurs ONG qui dénoncent des crimes de guerre commis par les Émirats Arabes Unis au Yémen, dans la coalition internationale avec l'Arabie Saoudite, alors qu'Interpol est censé lutter contre ces crimes de guerre.
Interpol vient d'ailleurs de tenir sa dernière assemblée générale à Dubaï, en attendant d'installer son siège pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, à Riyad, en Arabie Saoudite.
Oui, les Émirats Arabes ne sont pas les seuls d'ailleurs à financer Interpol, Philippe, dans cette fondation. On trouve aussi la FIFA, la Fédération Internationale de Football. Et puis si on regarde la composition de son conseil d'administration, on trouve même des banquiers.
Oui, et notamment un banquier britannique qui a beaucoup fait parler de lui, nous dit encore Mathieu Martinière.
On avait Stuart Gilliver qui était le directeur d'HSBC. On a dû poser la question à Interpol, pourquoi Stuart Gilliver, qui est le directeur d'HSBC, qui est dans le scandale des Swiss Leaks d'évasion fiscale, lui-même pour détenir un compte caché au Panama, est toujours dans cette fondation alors qu'Interpol est censé lutter contre toute forme de criminalité, notamment la criminalité en col blanc. C'est suite au fait qu'on ait posé la question que Stuart Gilliver a aussi dû quitter la fondation. C'est comme si on devait informer des fois Interpol que dans cette fondation, il y a des personnages sulfurés, notamment des personnages qui sont poursuivis en justice.
Ouais, le dernier des personnages poursuivis qu'on citera dans ce conseil d'administration, c'est un certain Carlos Ghosn.
Oui, Carlos Ghosn, le patron de Renault-Nissan, aujourd'hui incarcéré au Japon. Il siège dans le conseil d'administration de la fondation, notamment aux côtés du député Olivier Dassault. Il figurait encore sur l'organigramme fin décembre, mais la fondation serait en train de se séparer de lui, si l'on en croit Jürgen Stock, le secrétaire général d'Interpol.
Je sais que nous avons pris les mesures nécessaires pour clarifier la situation de M. Carlos Ghosn. Haut représentant de la Fondation de s'en saisir, mais encore une fois, je sais que nous avons une politique claire qui a déjà joué dans des cas similaires. Et nous nous attendons encore une fois à ce que la Fondation prenne les mesures nécessaires. Je sais que le conseil d'administration et le président de la Fondation ont entamé la procédure et j'ai confiance en eux.
Allez-vous coopérer avec la justice japonaise ?
Si nos collègues du Bureau national central d'Interpol à Tokyo nous font la moindre demande, évidemment, nous coopérons. C'est la règle.
nous coopérons. On sent quand même un peu d'embarras dans ses propos, non ?
Oui, parce qu'il doit gérer une organisation avec toutes ses contradictions. Interpol est certes un outil de police internationale efficace, mais elle est aussi soumise à des influences dans un contexte diplomatique aux intérêts souvent divergents, ce qui complique parfois les choses.
Ouais, ce sera le mot de la fin. Merci Philippe Reltien pour cette enquête. Alors je précise qu'on peut la réécouter, la lire ou la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez aussi nous y laisser vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire d'ailleurs sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou sur Twitter, Investigation RF, mais surtout, restez avec nous. Facebook trahit-il ses utilisateurs ? Eh bien, de ça aussi, on parle dans un instant. Oh ah, yeah. Oh oh, baby. Can't fight the feeling. De la bonne vieille soul, c'était Can't Fight the Feeling, extrait de Black Velvet, l'album posthume de Charles Bradley.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Alors nous recevons maintenant Olivier Tesquet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des questions numériques à Télérama et avec vous on va évoquer une affaire qui est passée relativement à bas bruit durant les vacances de Noël mais qui pose quand même de sérieuses questions. Le Financial Times a fait état d'une étude qui montrait qu'une vingtaine d'applications Android qu'on utilise donc sur nos smartphones transmettraient à Facebook nos données sans que nous... on en ait été informé. Alors d'abord, pour préciser les choses, parce que j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé beaucoup, de quelles applications est-ce qu'on parle ?
Alors il y avait notamment des applications de réservation de billets, ce genre de choses, par exemple Skyscanner, Kayak, qui sont quand même des applications très utilisées par le grand public, qui permettent de comparer des vols, de choisir des billets d'avion, etc. Il y avait des applications de fitness, les applications de météo, qui sont aussi quand même assez, voilà, assez notoirement météo, des oui. espèces d'aspirateurs à données, qui sont ensuite transmise à des tiers et on ne sait pas trop ce qu'il advient de ces données-là. Et donc effectivement, l'étude a montré que 61% de ces applications, une fois qu'elles étaient ouvertes sur un téléphone Android, transmettaient des données sans que l'utilisateur ne soit au courant, à tel point que ces données-là étaient transmises à Facebook, quand bien même vous n'êtes pas un utilisateur de Facebook.
Ah oui, on va en parler, mais qu'est-ce qu'on envoie comme données précisément? Quand on parle de données, c'est quoi?
Alors là, en l'occurrence, c'était notamment les données relatives à ces services-là, c'est-à-dire que vous êtes, mettons, sur Skyscanner, vous cherchez un vol et un endroit pour partir en vacances, et ben les données de type de réservation, savoir combien de billets vous avez acheté, combien vous avez payé, quel téléphone vous utilisez, quel est son numéro de série, peut-être, voilà, ce genre de choses peuvent être transmis comme ça à Facebook sans que vous le sachiez vraiment.
Donc ce que vous disiez, c'est que Facebook, du coup, a des données de personnes qui n'ont pas forcément de compte chez lui.
C'est ça. Alors en fait, c'est là où il faut préciser quelque chose, c'est-à-dire que Facebook est à la fois, évidemment, une gigantesque base de données, une gigantesque régie publicitaire, mais c'est aussi un courtier en données, c'est presque le premier courtier en données, c'est-à-dire que Facebook vend des données à des entreprises tierces, mais Facebook en achète aussi, c'est-à-dire qu'ils sont l'espèce de gigantesque échangeur autoroutier où transitent des dizaines, des centaines, des milliers, des millions probablement même de données de tout type qui peuvent être effectivement du numéro de série de votre smartphone à votre historique d'achat sur Internet.
Et qu'en font ceux qui utilisent ces données?
Alors ça, c'est la grande question. Ça, c'est effectivement, c'est le gros point noir. Aujourd'hui, on a une visibilité quasi nulle sur toutes ces entreprises tierces qui travaillent avec Facebook. En gros, on pourrait catégoriser trois types d'acteurs. Il y a les grandes plateformes. Donc là, on parle de Facebook, mais ça pourrait être Google, par exemple. Il y a des entreprises de services qui sont adossés à Facebook quelque part, qui peuvent être, je sais pas, des Netflix, des Spotify, qui sont aussi des assez gourmands en données. Et puis on a tous ces acteurs de l'ombre qui sont des courtiers en données, qui sont très peu visibles, très inconnus du grand public, et qui à la fois achètent des informations à Facebook pour faire du ciblage publicitaire par exemple, ou pour faire du calcul de score de crédit, ce genre de choses. Et qui aussi en vendent à Facebook. Mais Facebook est quand même assez conscient que ça peut poser problème, c'est-à-dire que quand il y a eu le scandale Cambridge Analytica l'année dernière, donc du nom de cette officine britannique qui a siphonné Facebook pour aider la campagne du Brexit et pour aider la campagne de Donald Trump. Quelques jours après le début du scandale, Facebook a très discrètement, et quand je dis très discrètement, c'était vraiment dans un communiqué de quatre lignes, indiqué qu'ils arrêtaient ce partage avec des entreprises tierces à des fins publicitaires.
Donc, sauf que là, ça continue.
Alors,
si on
vous entend. Ça pose quand même deux questions, c'est-à-dire que combien d'entreprises sont concernées? Parce que Mark Zuckerberg, après le scandale Cambridge Analytica, a dit on va lancer un gigantesque audit pour savoir, en gros, avec combien d'entreprises on a partagé les données. Il a clairement laissé entendre que ce serait très long parce qu'il y en avait des milliers. Et puis surtout, est-ce qu'on fait vraiment confiance à Facebook? Parce qu'on voit quand même qu'il y a un scandale par mois, quasiment, si ce n'est plus. Est-ce qu'on a vraiment envie de les croire sur parole quand ils nous disent on vous promet qu'on a fermé le robinet? Effectivement, quand on apprend ce genre de choses, ça donne quand même plutôt envie de soulever le capot pour voir si c'est du lard ou du cochon.
D'autant plus que tout ça est illégal. Au regard de la nouvelle réglementation européenne, c'est illégal.
Alors, c'est vrai que ça pose évidemment souci. Parmi, on va dire, les très grosses plateformes aujourd'hui, je pense que Facebook sont ceux qui sont regardés de plus près par les autorités européennes par rapport au RGPD, effectivement, donc le nouveau règlement sur la protection des données personnelles qui est entré en vigueur en mai dernier, parce qu'effectivement, il y a un gros problème de consentement dans l'accès à ces données. On peut citer un autre exemple. Le New York Times nous a appris il y a quelques mois que certaines entreprises ont pendant des années, donc là c'était antérieur au RGPD, ont eu une espèce de partenariat privilégié avec Facebook qui leur permettait de récupérer tout un tas de données. C'est-à-dire que, par exemple, on a découvert que Spotify récupérait les messages privés de ses utilisateurs. On a découvert que Airbnb, Lyft, qui est un concurrent américain de Uber, récupéraient eux aussi énormément de données. Alors c'est aussi lié au fait que quand vous vous connectez à certaines plateformes, on vous propose aujourd'hui de plus remplir le champ email et le champ mot de passe. On vous dit connectez-vous avec Facebook, c'est plus pratique, c'est en un clic. Sauf que quand vous faites ça, vous laissez quelque part rentrer le loup dans la bergerie.
C'est le cheval de Troie.
Voilà, c'est le cheval de Troie. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait ça, il n'est pas déraisonnable d'imaginer que les données que vous allez partager sur l'application ou le service sur lequel vous êtes vont ensuite atterrir d'une manière ou d'une autre chez Facebook.
Bon, en même temps, ça commence à se savoir. Vous évoquiez ces scandales à répétition. Il y a eu une amorce de désabonnement de Facebook l'année dernière. Est-ce que ça se confirme? Est-ce que ça s'amplifie? Ou au contraire, ça a fait flop?
Alors, on pensait que ça ferait flop, comme assez souvent, parce que c'est pas la première fois que ça arrive quand même depuis quelques années. On est quand même en train de se rendre compte avec les études qui commencent à sortir que ça a un effet. Et ça a notamment un effet sur les populations les plus jeunes. C'est-à-dire que sur les tranches d'âge de on va dire les 15-25 ans à peu près, il y a un désabonnement ou un départ assez massif de Facebook. On a des gens qui suppriment l'application, on a des gens qui quittent définitivement l'application. Et moi, par exemple, je lisais la semaine dernière une étude américaine qui sondait des gens, c'était vraiment des citoyens, c'était pas forcément que sur Facebook, pour savoir en qui ils avaient confiance, par exemple, sur le développement et l'encadrement des intelligences artificielles. Et on se rendait compte que ceux qui arrivaient vraiment tout en bas, mais vraiment tout en bas, c'était Facebook. Il y avait 4% des gens qui avaient confiance en Facebook, parce qu'aujourd'hui, c'est la vraie difficulté qu'ils ont, c'est que le déficit de confiance envers Facebook, il est immense.
Alors, on évoquait tout à l'heure le côté illégal, ou la question de la légalité de ce qui se passe. En même temps, il n'y a pas de poursuite ou peu de poursuite. Pourquoi ?
Alors, c'est vrai qu'il y a assez peu de poursuites. Alors, il faut quand même se dire que le RGPD, dont on parlait tout à l'heure, il est entré en vigueur
en mai
dernier. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le RGPD, on est un peu dans l'attente du, on va dire, du Big One, qui serait un peu le premier cas.
Coup de pied dans la fourmilière.
Voilà, sur le cas d'une très grosse plateforme, que ce soit Facebook ou que ce soit une autre. Hein. Pareil, quelques mois avant l'entrée en vigueur du RGPD, on a eu l'histoire avec Uber, qui s'est quand même fait voler des dizaines de millions de données d'utilisateurs, qui en plus, l'a sciemment caché aux utilisateurs en question en essayant de récupérer les données. Il n'est pas déraisonnable d'imaginer là aussi que si les autorités européennes, dans le cadre du RGPD, s'étaient penchées là-dessus, il y aurait eu une amende probablement record. Parce qu'encore une fois, l'amende peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires, ça fait quand même beaucoup.
Donc à suivre. Merci pour toutes ces explications, Olivier Tesquet. Alors je précise qu'on peut vous retrouver vos réflexions sur votre blog qui se trouve sur le site de Télérama. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer et réalisée par Christophe Imbert. À la technique, il y avait Anne-Laure Cochet et Arnaud Caillé, et une programmation musicale qui était signée Jean-Baptiste Audibert. Dans quelques instants, Denis Chessou et CO de Mon Amour va vous emmener en Suède. Pour ma part, au nom de la cellule investigation de Radio France, eh bien, je vous souhaite un excellent week-end.